Bienvenue à la balado Le temps de vivre, une série de la Fédération des aînés franco-manitobains qui permet de découvrir les passions, les réflexions et la sagesse des aînés francophones du Manitoba à différents stades de la retraite. Je suis votre animatrice Monique Lacoste et mon invitée aujourd'hui est Carmen Laroche, une octogénaire qui maintient un horaire très chargé. Chant choral, comité de résidents, animation radiophonique, cette bibliothécaire à la retraite n'a pas le temps de s'ennuyer. Tout au long de sa vie, Carmen Laroche a regardé l'horizon, développé des projets d'avenir et a su les concrétiser. Comme nous le dit Carmen, ce réflexe a commencé très jeune.
J'ai commencé à travailler très jeune, ce qui est assez hors de l'ordinaire pour mon âge, là. Je dois dire que j'avais 15 ans, c'était les vacances de Noël, et puis j'étais allée à la poste. La personne qui était la responsable du service de téléphone à Sainte-Agathe, eh bien, elle cherchait quelqu'un pour travailler quelques heures semaine, et puis elle m'a offert un travail. Puis j'avais 15 ans.
Okay.
Et puis, j'ai fait ça jusqu'après mon école normale. Puis ça m'a permis de ramasser tout ce que j'avais besoin pour aller à l'école normale.
Aujourd'hui, c'est normal, mais oui. Ça n'était pas dans ce temps-là.
Non, parce que quand je suis arrivée à l'école après les vacances, puis quand j'ai annoncé ça à mon enseignante, elle m'a dit, tu vas abandonner tes études. Et puis, ben, je dis au contraire. Comme moi, je savais ce que j'allais faire. Je m'en allais à l'école normale. Alors, il n'était pas question d'abandonner les études. Puis, une autre branche dans laquelle je me suis lancée plus tard dans la vie, ça a commencé aussi quand j'étais au secondaire, parce qu'on avait une bibliothèque avec des vieux livres. Alors, on avait appris à les réparer avec de la colle. Moi, j'adorais ça, faire ça. Puis mon rêve était de travailler dans une bibliothèque. Alors, je dois dire que ma vie a commencé vraiment active à ce moment-là.
C'est comme si tu avais une vision de la vie que tu voulais vivre.
Oui, oui.
Avais-tu espoir à ce temps-là que ça se réaliserait, par contre, ou c'était juste une idée
lointaine? Ben pour la bibliothèque, ça, je n'étais pas certaine, là, parce que je savais qu'il fallait avoir un bac. Et puis, ben, je ne m'alignais pas pour un bac parce que je n'avais pas l'argent pour le faire. C'est devenu éventuellement.
Pour situer les gens à l'écoute, on parle de quelles années environ?
On parle des années 50, là. Oui, et puis j'ai enseigné 2 ans à Saint-Laurent. C'est pendant ces années-là que j'ai rencontré Pierre. Et puis, je dois dire une autre chose qui est assez différente de ce que je vois depuis des années. Avant de se marier, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qui était nos plans, qu'est-ce qu'on voulait faire. On voulait avoir une famille. Là-dessus, on a été vraiment choyés. On a eu une grande famille, 7. Et puis, je pense que c'est ça qui est le mot communication et le thème de ma vie. Puis ça m'a amenée envers tout ce que j'ai fait.
Oui, des couples dans les années 50, c'était pas la communication ouverte et où les deux membres du couple étaient souvent sur le même pied d'égalité. C'était pas tout le temps
non,
le cas.
Non, pas du tout. Moi, j'ai des copines qui ont même pas appris à conduire. Ben, tu sais, moi, je me suis fait lancer, ben écoute, prends le camion puis va à Saint-Pierre, tu sais. Puis, j'ai été prendre mon permis de conduire.
Puis, est-ce
tout
que
simplement,
c'est plutôt, c'est venu de ta famille, de tes parents, ou c'est venu tout naturellement chez toi, tu penses?
Ben, chez nous, mes parents parlaient pas beaucoup, surtout mon père parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, c'était... On écoutait parce que c'était vraiment important, qu'est-ce qu'il disait, tu sais. Puis je le sais que la fois, j'étais arrivée à la maison à 15 ans, puis j'ai dit que j'avais un travail. Il dit, tu finis tes études avant. J'ai dit, les deux vont aller ensemble. Il m'a regardé, puis OK. Mm-hmm. Il a vu que j'étais sérieuse, alors.
Et tu devais avoir déjà démontré un certain sérieux, comme on sent chez toi, Carmen, que tu n'entreprends pas les choses à la légère, tu es une faiseuse. Je m'imagine que tu étais comme ça depuis que tu es toute petite.
J'ai toujours été comme ça. C'est ça qu'on me dit, que même quand j'étais petite fille, j'étais comme ça. Alors, ben, je dois te dire que j'ai des très bons souvenirs de mes deux grands-mères. Ah, j'étais toute petite, mais j'étais très proche d'elle à cause des circonstances, parce qu'on vivait au village. Moi, j'ai grandi au village. La ferme, c'est devenu plus tard dans ma vie. Ma grand-mère était des personnes très spéciales pour moi. Et puis, j'avais une tante célibataire. Puis les sœurs de maman, c'était tout un clan, là, tu sais. Puis moi, j'ai grandi là-dedans, puis des cousines. Et puis, ben c'est comme ça, je pense, que j'ai appris à communiquer.
Ouais.
Parce que ma mère avait travaillé avant de se marier à l'extérieur. Ça aussi, c'était assez avant-gardiste, là, mm-hmm. pour le temps. Et puis, la couture, c'était un grand talent dans ma famille. Et puis, les filles, on a appris à coudre. Et on a pu se débrouiller quand on a été mariés puis qu'on avait une famille. Eh bien, c'était très pratique.
Absolument.
Puis, je vais te dire, ils vont peut-être pas... Peut-être mes fils seront pas fiers, là, mais ils savent coudre à la machine. Puis, ils sont capables de réparer une paire de jeans, s'il faut. Je leur ai montré comment se débrouiller dans la vie quand ils étaient à la maison, parce qu'on était beaucoup de monde, puis chacun avait ses tâches.
Ben, c'est puis, formidable. C'est un cadeau que tu leur as fait.
Ben moi, je vois ça comme ça, parce mm-hmm. que ce que moi, j'ai reçu de la génération avant moi, de ma mère et toute sa famille, et la mère de mon père aussi, parce que j'avais une tante qui était très spéciale. Puis elle était une communicatrice. Je pense que c'était elle la plus grande communicatrice de toute... Mon entourage.
Oui. Puis ouais. Qu'est-ce qui faisait d'elle, cette bonne communicatrice-là?
Elle disait les choses comme elles étaient. Puis dans ce temps-là, c'était pas évident. C'était pas évident.
Alors, courage, ouverture d'esprit, puis oser finalement, une sorte d'audace, j'imagine.
Ben oui, parce que dans tout, je me suis toujours sentie un peu, pas différente, mais que j'avais des idées qui allaient des fois à l'encontre du groupe, là.
Oui, oui.
Et puis, eh bien, j'ai été encouragée, naturellement, dans ma vie, à être comme ça.
Mais est-ce que ça a fait des fois des... Étais-tu perçue comme rebelle, un peu?
Je pense pas. Non, je pense pas. Mais, cette idée, comment on va élever nos enfants, quelles valeurs on va leur donner, puis tout ça... Ça avait tout été discuté avant de se marier. Alors, ça se passait assez bien, les choses. Mm-hmm. Tu sais, ça se passait bien.
Et finalement, puis, vous avez réussi à élaborer le plan puis à le mettre en œuvre?
Ben oui. Mm-hmm. Ben oui. Puis je pense qu'on a réussi assez bien, quand même.
Vous écoutez la balado Le temps de vivre de la Fédération des aînés franco-manitobains. Mon invitée Carmen Laroche est une femme d'action qui, très jeune, a réalisé son rêve de devenir enseignante, une carrière qu'elle a bien aimée. Alors, une fois mariée, comment a-t-elle réussi à jongler vie familiale et travail? Écoutons la réponse de Carmen.
Oh, tu vois, c'est un sujet très... Parce que quand tu te mariais, c'était fini ta carrière. On ne voulait plus t'avoir. Parce que tu allais peut-être tomber enceinte, probablement tomber enceinte, alors on ne voulait pas te voir. Mais quand on était mal pris, on venait te chercher, par exemple. Puis ça arrivait souvent en campagne. Uh-huh. Puis je ne rentrais pas dans mes expériences parce qu'il y a eu du négatif. Uh-huh. Alors, je ne vais pas là.
D'accord.
Mais j'ai eu des très belles expériences aussi avec les enfants. Uh-huh. Oui, c'était bien. C'était une belle expérience. Mais... Je suis tombée enceinte, puis bien naturellement, l'expérience, elle a coupé court. Mais j'ai toujours gardé une communication avec, tu sais, remplaçante à l'école ou pris un contrat pour une année ou quelque chose comme ça.
Puis avec le mariage est venue la vie sur la ferme.
Oui, c'est ça. Plus tard, parce que ça, c'était un rêve que les deux, on partageait. Et puis, on a réussi en 1970. Puis on s'est installé sur une ferme. Où c'était pas un cadeau, mais on en a fait un succès. Mais j'ai toujours été très bien supportée par mon compagnon de vie. Ça, mm-hmm. je dois dire ça. Puis, ben, je pense que ça fait grosse différence.
C'était quand même un partenariat, je pense, que
oui,
vous aviez.
Exactement, exactement.
Comment
oui.
expliquer ça?
Ah, ben, je pense que Pierre, il était avant-gardiste, évidemment. est un communicateur. Mm-hmm. Ce que beaucoup de monde ne savent peut-être pas, c'est qu'il savait très bien écouter. Alors, un échange d'idées entre les deux, c'était... Même quand on était à la retraite ici, on s'assoyait sur notre balcon, puis on jasait de tout, mm-hmm. pendant des heures de temps, des fois. Il faisait... la lune était en train de descendre, là, puis on était encore assis, là. En été, évidemment.
Hey, mais ça, c'est un cadeau de penser qu'à la fin de la vie comme ça, qu'on aille encore des choses à se dire couple.
Ah oui. Bien, premièrement, on revit des bons moments. Mm-hmm. Puis ensuite, on anticipe d'autres bons moments. Puis on règle tous les problèmes de la Terre. Alors, il y a toujours quelque chose à dire.
Alors, si on suit un peu la chronologie, vous êtes sur la ferme maintenant. Mm-hmm. La famille Laroche grandit et on découvre leurs talents. Les enfants mm-hmm. Sont chanteurs, sont musiciens. Quelle place est-ce que ça a occupé dans votre vie familiale?
À un moment, ça a occupé une très grande place. Ben, c'est curieux comment ça a commencé. Il y avait un vieil oncle qui fêtait un anniversaire, je ne sais pas. Et puis, les cousins qui organisaient ça, nous ont téléphoné et on dit « On aimerait que vous veniez chanter. » On le faisait ensemble, mais on n'avait jamais fait en public. Ça s'est fait tout bonnement. Puis les enfants ont vraiment embarqué là-dedans, trouvaient ça le fun. Puis déjà, ben, ils prenaient des cours de piano. Puis on a participé à Mélomanie quand ça existait. C'était une fin de semaine organisée par ce qui est Alliance Chorale aujourd'hui. Alors, on arrivait de la campagne avec notre voiture pleine d'enfants. Et puis, on s'installait dans le vieux centre culturel, dans la vieille partie de l'Académie Saint-Joseph. Ben, c'était le gros party pour les enfants, le vendredi soir, là. Je trouve que c'était tellement merveilleux pour les enfants. Ils avaient la chance de se faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances.
Mm-hmm. Et ils chantaient.
Puis, toute la fin de semaine, il y avait des ateliers. Il y avait Martien Ferland, il y avait Guy Boulian, il y avait Sœur Agathe, qui était une merveilleuse enseignante de musique. Puis elle avait le tour avec les gars, là. Puis pendant ce temps-là, ben tu vois, ça, c'est parce que Pierre nous encourageait de le faire. Moi, je venais avec les enfants. Des fois, ils venaient le dimanche soir pour le concert, dépendant de l'âge des deux plus jeunes, parce qu'il y en avait deux qui étaient plus jeunes, puis il y en avait cinq qui suivaient. Hein.
D'accord.
Alors, ça a été un enrichissement. Puis ce qui est arrivé éventuellement, c'est qu'on a fait une tournée. Hein. Et ça, là, ça a été toute une expérience vraiment enrichissante. Il y avait des bouts qui étaient un peu pénibles parce que c'était en hiver, puis on a frappé des tempêtes de neige. Ça, c'était pas si drôle. Mais à mesure que le temps passait, on s'habituait à cette vie-là. C'est pas évident d'être sept personnes dans une voiture.
Puis vous avez fait combien de spectacles dans le cadre de cette tournée-là, à peu près?
J'ai oublié le nom. Il me semble que c'était une trentaine. C'était beaucoup. La première place où on est allé, imagine, c'était Chapleau, en Ontario. Et c'est ça, on a fait l'Ontario. Ensuite, on est allé au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve. Puis on est revenu à Québec vers la dernière semaine de mars. On s'est installé dans le Vieux-Québec. Ma sœur, qui demeure au Québec, est venue nous rejoindre avec sa famille. Et puis, on a passé 4 jours à visiter la vieille ville. Ça, c'était merveilleux.
Ben, quel beau souvenir de famille.
Puis ensuite, on s'en va au lac Saint-Jean. Puis on arrive là, puis on est accueillis, ben, à bras ouverts. Il y a eu un party, il y avait comme une centaine de personnes. Alors, c'est des beaux souvenirs, surtout pour les enfants.
Ils avaient quel âge, à peu près, au moment de cette tournée-là?
Stéphane avait 8 ans, Pierrette avait 18 ou 19, là, quelque chose comme ça. Là.
Puis quel impact que ça a eu sur les relations de famille, diriez-vous?
Il y a des petits bouts qui étaient un petit peu pénibles.
Normal.
Mais en général, parce qu'on était... les uns sur les autres.
Ben,
hein?
Oui.
Et puis, le soir, ben, deux chambres de motel, là, 4 par chambre. Eh bien, tu sais, c'était pas évident. Alors, quand on arrivait, des fois, on arrivait dans un endroit, comme en Ontario, je me souviens, on est demeuré au même endroit pour 3 jours. Eh bien, on est allé à l'école où on devait faire un spectacle, puis bien, naturellement, le directeur, il dit, les jeunes, si vous voulez venir vous servir du gymnase, vous êtes bienvenus n'importe quand. Ah bien, ça fait du bien, Ange. Puis à Ottawa, bien, on avait de la famille. Ils ont eu la chance d'aller patiner sur le canal, puis, tu sais, faire des choses. C'était fantastique.
Puis il faut croire que ça a peut-être ouvert la voie à votre prestation comme voyageur officiel.
Possiblement. C'était avant le temps que les enfants participent. Mais les 5 aînés avaient leur groupe à ce moment-là. Alors, eux autres, il y avait un contrat pour jouer tout le temps du festival. Et puis, les 2 plus jeunes, ben ils demeuraient avec... Ma mère, elle est restée sur la ferme avec eux autres, puis on avait un voisin qui venait faire les travaux de la ferme.
À la série Balado, Le temps de vivre, nous rencontrons Carmen Laroche, une femme déterminée qui a toujours su ce qu'elle voulait, même si elle a dû patienter bien des années avant d'y arriver. Carmen nous raconte comment elle est devenue bibliothécaire. Un rêve qu'elle caressait depuis la jeunesse.
Oui, bien c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû quitter la ferme pour des raisons de santé. Des allergies, là, dans la famille, c'était plus tenable. Alors, on s'en vient à Saint-Boniface, puis je suis allée voir Mademoiselle Frenet à la bibliothèque, puis je lui ai dit que j'aimerais ça travailler à la bibliothèque. Alors, elle me dit... Bien, il n'y a pas de poste dans le moment. Mais elle dit, vous n'êtes pas une ancienne enseignante? J'ai dit oui. Elle dit, vous pourriez faire l'heure du compte? Bien, je dis certainement. Et puis, moi, bien, entre-temps, j'avais une amie, justement, que tu connais, Gisèle Marion, qui avait pris des cours au CU. Et puis, elle m'a dit, ah, t'aimerais ça prendre des cours. Mais là, quand j'ai vu que j'allais avoir des chances de travailler dans une bibliothèque, je voulais absolument avoir un bac. Hein. Alors, je m'inscris. 5 cours.
Qui était une pleine charge.
Oh, peut-être 3 semaines après que les cours sont commencés, Mademoiselle Frenet m'appelle, puis elle me dit, quelque chose à t'offrir. Elle dit, les samedis et les dimanches. Parce que pour la première fois, les bibliothèques de la ville allaient être ouvertes le dimanche. Ça a commencé le 2 octobre 1983. Je peux pas dire non. Alors, j'ai accepté. Puis après ça, ben, j'en ai parlé à ma famille, parce que, coudonc, j'étais...
J'ai encore des jeunes à la maison, là.
Oui, oui, oui. Stéphane avait 14 ans et Yannick avait 7 ans.
Eh bien, c'est plus qu'une pleine charge,
c'est
ça.
C'est beaucoup, ça, hein?
Oui.
Oui. Ma Pierre, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il dit, je vais m'en occuper des gamins, moi. Pas juste ça. Il fallait... Moi, je ne savais pas dactylographier. Hein. J'ai juste pas appris. Alors, quand j'apprends qu'il faut remettre nos travaux... Ouh! Je dis, OK, comment je vais m'organiser? Puis je dis ça à Pierre, je dis, as-tu une idée? Ah, ben je vais te les faire, tes travaux, moi. Et lui, il savait dactylographier, moi, je ne savais pas. On s'est entraînés toute notre vie, vraiment.
C'est dire que vous vous complétiez tellement comme couple. Ça, c'en est l'exemple classique.
Ouais. Oui, j'ai pris plusieurs cours d'histoire, parce que l'histoire m'intéresse beaucoup, puis des cours de français et d'anglais.
Oui.
Alors, c'est ça. Puis, ben ma vie à la bibliothèque a duré juste à ma retraite en 2004.
Alors, parle-nous de ce que c'était d'enfin réaliser le rêve de travailler à la bibliothèque. C'était-tu ce que tu croyais quand tu étais toute petite?
Oui. Il y avait des choses que je ne savais pas qu'il y aurait, comme une collection de musique que ma fille avait mis ensemble parce qu'elle avait travaillé, elle aussi, à la bibliothèque quand elle était aux études. Et non, ça a été des très, très belles années de travail à la bibliothèque.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ce travail que tu aimais? Est-ce que c'était les gens avec qui tu faisais affaire? C'était la collection et les livres? C'était quoi au juste?
Je dirais tout ça ensemble. Mm-hmm. Oui, tout ça ensemble. Moi, je dis que c'est en lisant que j'ai appris beaucoup. Et quel genre? Parce que il y avait beaucoup de clientes qui venaient me voir. Puis, ben qu'est-ce que t'as lu dernièrement, là, qu'est-ce que... Ben j'ai dit, je pense, ça, t'aimerais ça, l'autre, ben peut-être pas, là, mais ça, t'aimerais ça. Puis, généralement, c'était le cas. Ils venaient me dire, ah oh, oui, j'aimais ça, en as-tu d'autres comme ça?
C'est bon, ça.
C'est encourageant. J'ai travaillé... Quand on a déménagé dans les nouveaux locaux, au coin de Provencher et Taché, il y avait des boîtes, des boîtes, des boîtes de livres. Et puis, il y avait un nouveau bibliothécaire. Et puis là, il m'a mis en charge de ça. Alors, je passais des journées à faire ça pendant quelques mois, jusqu'à temps qu'on ait passé à travers toute la collection, qu'on ait remis les choses en place. Alors, j'ai appris beaucoup, parce que j'ai trouvé toutes sortes de trésors là-dedans. Hein. Parce que moi, j'aime beaucoup lire des romans, mais des romans historiques, basé sur le vrai, là, tu sais, sur la vraie vie. Et puis, j'ai beaucoup appris sur la vie des femmes dans ces. Puis, les femmes en ont fait du chemin, laisse-moi dire ça. Je viens juste de lire quelque chose, là. C'est incroyable. Ça se passe dans les années 28 à 30, là, quand il y a eu le crash, là, et tout ça. Ben, des femmes, une femme, exemple, héritait de sa famille. Gros montant d'argent, là. Mm-hmm. Ce qu'on appellerait une fortune. Eh bien, elle ne pouvait même pas la gérer, sa fortune, elle ne pouvait même pas avoir un compte en banque. Alors, c'est ça, comment elles ont fait du chemin, c'est incroyable. Ben, j'ai été chanceuse dans ma vie, je pense, parce que quand j'ai travaillé comme j'avais avec un directeur d'école, avec un bibliothécaire, ou j'ai toujours été avec des personnes qui étaient ouvertes, puis qui étaient... on pouvait parler de tout. Mm-hmm. Tout ce harcèlement, puis tout ça, là, il y a 20 ans, tu sais, on n'en parlait pas encore de ça.
Ça, c'est vrai.
Alors, si on n'était pas pris dans une situation comme ça, on ne savait pas tellement que ça existait.
Oui.
Parce que même nos amis qui étaient là-dedans, jamais qu'ils ne disaient rien, parce que c'était trop pénible. Elles ne voulaient pas en parler. Et... ben, je pense qu'il était temps qu'il arrive quelque chose. Puis que les femmes commencent à être traitées comme elles devraient être, d'après leurs valeurs, parce qu'elles ont une valeur, elles aussi.
Absolument.
Tu sais, elles ont des capacités. Et puis, justement, il y a, dans le livre que je viens de lire, il y a aussi cette affaire de les femmes ne peuvent pas réfléchir parce qu'elles n'ont pas le même cerveau que l'homme. Oh. Mais peut-être qu'elles réfléchissent bien parce que, justement, elles n'ont pas le cerveau de l'homme. Non, moi, je pense que les deux ont des très grandes qualités puis des grandes capacités, puis ils devraient être capables de les partager. C'est ça que je pense.
À quel moment as-tu commencé à songer à la retraite?
J'y songeais pas tellement, sais-tu. J'ai quitté un peu sans vraiment avoir le goût à 100% de quitter. Mm. Mais tu arrives à un certain temps, tu dis, ben, faut faire place aux jeunes. Puis moi, c'est comme ça que j'ai eu ça. Parce que j'avais 68 ans quand j'ai quitté la bibliothèque. Puis, ben, je dois t'admettre que j'y vais presque toutes les semaines depuis ce temps-là. Ça fait encore partie de
ma vie. T'as jamais vraiment quitté la bibliothèque. C'est juste un moins de responsabilité maintenant.
C'est ça. Oui, de rapporter mes choses à temps. Ça, c'est ma responsabilité à présent.
Vous êtes toujours à l'écoute de la balado de la Fédération des aînés franco-manitobains, intitulée « Le temps de vivre » avec Monique Lacoste. Notre invitée est Carmen Laroche, une octogénaire qui étonne par sa vivacité et son engagement dans la communauté. Quel est son secret? Je lui ai demandé ce qu'elle fait pour rester en aussi bonne forme.
La marche, c'est un remède à tout, parce que quand tu vas marcher, tu oublies tout. Tu es dans la nature, parce que même en pleine ville, tu peux te retrouver dans la nature. C'est un moment très spécial. Même quand il ne fait pas beau, la seule chose qui va vraiment m'empêcher, c'est de la glace sur les trottoirs. Là. C'est trop dangereux. Autrement, je trouve le moyen d'aller marcher un peu ou beaucoup, dépendant des journées.
Et la spiritualité, jusqu'où ça occupe une partie dans la vie aujourd'hui?
Ben moi, pour moi, la spiritualité, c'est des moments, il y en a chaque jour, quand tu te retrouves en paix, seul, soit à l'extérieur ou soit à l'intérieur. Et puis que tu peux vraiment t'arrêter, là, puis penser, puis apprécier tes belles choses de la vie et puis d'en rendre grâce. Tu sais. C'est ça que c'est pour moi. Je veux dire, je participe tous les dimanches, mais ça fait partie de moi depuis toujours. Mais le temps spécial, là, c'est seul que ça se passe. Mm. Ben moi, je dirais là, que le bonheur, là, c'est évident qu'on le fait soi-même. Hein. Quand on était plus jeune, comme adolescence, là, les autres étaient tellement importants dans notre vie. Là, hein. Et puis, un jour, il allait avoir quelqu'un de vraiment spécial dans notre vie, là, puis là, on allait être heureuse. Là. Ben, il ne faut pas se faire des idées comme ça. Il faut se faire des idées que qu'on ait n'importe quel âge, qu'on soit dans n'importe quelle condition physique. Le bonheur, c'est nous autres qui l'a en nous. Puis, si on le cultive, ben, il va être là tout le temps. C'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas.
Y a-t-il des jours où c'est plus difficile à cultiver que d'autres?
Oui, quand il y a des grosses épreuves. Tu sais, des épreuves de santé, là, on en a vécu dans notre famille. Et puis, oui, c'est plus difficile. Mais il faut juste prendre le temps de s'arrêter puis dire, ben oui, mais c'est la vie, quand même, là. Puis accepter les choses au lieu de... Puis d'en parler, s'il faut.
Mm-hmm.
Ça, c'est important aussi.
Je voulais justement parler de vieillissement. Comment tu réagis au fait de vieillir ou comment tu perçois le vieillissement?
Ben moi, je pense pas ça tellement souvent. Mais je pense que pour être capable de, tu sais, de pas s'ankyloser, là, c'est important de physiquement bouger chaque jour. Ensuite, pas se dire, ah ben ça me tente pas, ça me tente pas. Non, ça me tente pas, mais je vais le faire pareil.
Mm-hmm.
Tu sais, parce que ben on voit autour de nous, je sais que la maladie y est pour beaucoup. Puis moi, je me compte très chanceuse parce que j'ai une bonne santé. Mais ça ne va pas nécessairement durer toujours. Mais je suis convaincue que oui. Faut se convaincre, puis faut faire ce qu'il faut pour arriver. Puis si ça n'arrive pas, ben, c'est la vie.
Puis avec la vie, ben, une partie de la vie à laquelle il faut s'adapter en vieillissant, c'est la mort. Et vous avez eu à dire au revoir à votre partenaire de vie. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on voit la mort et qu'on vit cette réalité-là?
Pour moi, en tout cas, quand tu vois une personne que tu aimes beaucoup, puis tu le vois souffrir et souffrir, puis qui se plaint même pas, qui demande même pas d'aide, mais par contre, on parle de tout ça. Puis, ben, mon partenaire de vie m'avait dit, quand je vais te dire que je vais aller à l'hôpital, c'est parce que je suis prêt pour aller à l'hôpital. Puis ça, c'est probablement le moment le plus pénible que j'ai vécu dans ma vie. Parce que je dis, ben, il s'en va à l'hôpital pour mourir, imagine. Tu sais? Ben, c'est ça qui est arrivé. Mais après, j'ai vécu un grand soulagement parce que j'ai dit, enfin, il ne souffre plus. Puis enfin, toutes les épreuves qu'il a vécues, puis toutes les choses qui ont été difficiles pour lui, c'est fini. Puis là, tu sais, j'ai été capable de dire merci pour ça. Et puis là, ben, j'avais des copines, naturellement, qui venaient de vivre la même chose ou qui l'ont vécu pas longtemps après moi. Alors, on se rencontrait assez souvent. Puis, il n'y a même personne qui osait venir nous interrompre. Je pense que c'est ça, il faut savoir s'entourer. Et puis, parce que pour les enfants, c'est très dur aussi. Mais on en a parlé, tu sais, avant que ça arrive. Et quand c'était le temps, les enfants, ils savaient, c'est le temps. Puis, ben, c'est à moi à me préparer en conséquence aussi. Oui. Mais non, c'est un moment très, très difficile à passer. J'ai passé aussi un autre moment, mais j'étais au travail à plein temps. On a perdu un petit enfant hein, dans la famille. Ah, ça, c'est pas pareil, hein? C'est une vie qui commence. Alors ça, c'est très, très difficile aussi. Mm-hmm. Très difficile. Mais je pense que ça nous rend plus forts, puis plus solides, puis c'est ça qu'on apprend, puis je pense que ça fait partie du bonheur.
Mm-hmm. J'aimerais terminer notre entretien avec ce que j'appelle les petites questions en rafale.
D'accord.
Alors, c'est quelques questions rapides. Alors, routine ou spontanéité?
Spontanéité.
Lève-tôt ou oiseau de nuit?
Oiseau de nuit.
Paysage connu ou nouveaux horizons?
Oh, nouveaux horizons.
La retraite, est-ce une destination ou un voyage?
C'est un voyage.
L'aspect le plus plaisant de la retraite?
Être capable de se lever à l'heure qu'on veut quand on n'est pas pris ailleurs.
Et son aspect le plus difficile?
S'adapter à tout son entourage. Ça peut être difficile, oui.
Et finalement, la retraite, c'est?
Ce qu'on en fait. On l'a fait, sa retraite. Si on la veut heureuse, il faut y mettre ce qu'il faut. Je pense que c'est ça.
Ben, Carmen Laroche, merci beaucoup d'avoir partagé cette sagesse avec nous aujourd'hui.
C'est la première fois que je me fais dire que j'ai de la sagesse, Monique.
Ça m'étonne.
Merci à toi.
C'était le temps que tu l'entendes.
Merci.
C'était un épisode de la balado Le temps de vivre avec notre invitée Carmen Laroche. Cette série est produite par la Fédération des aînés franco-manitobains et a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada. Je vous laisse avec cette pensée de l'artiste, écrivain et philosophe Emmanuel Kant. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Carmen Laroche en est certainement la preuve. Ici Monique Lacoste. Merci de votre écoute et à la prochaine!